Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Encore des mots, toujours des mots, chantait Piaf. Eh bien, des mots, nous en avons beaucoup à vous proposer aujourd'hui. Une nouvelle fois, soyez les bienvenus à l'émission À livre découvert.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, nous recevons Gérard Saint-Denis, abonné du SQLA et de plein d'autres bibliothèques sonores, qui viendra nous parler de deux livres différents et qui viendra aussi, peut-être, je l'espère, vous exhorter à utiliser peut-être un peu plus le site internet du SQLA, une vraie mine d'informations entre deux émissions de Livres Découverts, bien sûr. Et puis, je me sens un petit peu intimidée parce que là, je reçois en studio, j'ai à côté de moi non seulement une auteure, mais aussi une journaliste, une animatrice d'émissions littéraires. Comment voulez-vous que je me sente? Claudia Larochelle est avec nous aussi. Bonjour Claudia, merci d'être là.
Bonjour, quel accueil.
Et puis, je suis littéralement tombée en amour, et vous aussi certainement, avec cette voix que certains d'entre vous connaissez bien. Puisqu'il est bénévole chez Vues et Voix, j'ai demandé à Jacques Tremblay de revenir à l'émission et spontanément, il a dit oui. Bonjour Jacques.
Bonjour Clotilde.
Alors, parlons livre sur Canal M.
Chapitre 1.
Ah, Gérard Saint-Denis, tout un poème. Comment allez-vous, Gérard? Je suis tellement contente de vous recevoir.
Je suis dans le jardin, madame. Je suis dans le jardin.
Vous êtes dans le jardin?
Ah, c'est effrayant. J'ai cueilli aujourd'hui mes premiers échalotes de jardin. Et ça, c'est toute une aventure. Mes radis vont arriver dans 6 jours. Et ce sera mon premier sandwich au radis que je fais traditionnellement. Ça, je fais ça avant de lire des livres.
Bien sûr. Mais autrement dit, si Élise Desaulniers, qui a écrit « Je mange avec ma tête », était là, et si elle écoutait l'émission, elle serait contente de savoir que vous allez dans votre jardin pour y cueillir le poireau et l'échalote.
C'est ça. Exactement, elle serait très heureuse de moi. Et j'ai un jardin bio, il n'y a aucun engrais, il n'y a aucun additif, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et tout ce que j'ai, c'est du fumier de lapin.
Si vous...
Tout ça pour dire qu'il faut prendre le temps de lire, c'est tellement intéressant à lire. Moi je regarde un livre, quand je prends un livre, c'est comme si j'étais assis à côté d'un auteur. C'est drôle, hein?
Oui.
Ça fait longtemps que j'ai cette perception-là. J'ai ça depuis ma tendre enfance. Mon grand-père, qui venait d'Europe, qui traversait entre les deux guerres, a rapporté des milliers de livres.
Oui.
Et j'ai été élevé d'une famille de livres. On avait ça, nous autres, le livre, c'était comme un copain, un ami.
Oui.
On parle avec ça.
Oui.
Mais je dois vous dire, j'ai pilé sur moi. J'aime pas les autobiographies. J'aime pas ça, les biographies. Je sais pas pourquoi.
Allons bon.
Et je me suis laissé prendre par Gaétan Frigon.
Ah, OK.
Je me suis laissé prendre parce que l'autobiographie de Gaétan Frigon, parce que je connais très bien Gaétan Frigon.
Est-ce que vous le connaissez personnellement?
Pardon?
Est-ce que vous le connaissez personnellement?
Ah, personnellement, j'ai eu le plaisir, en plus, de faire un voyage de 30 jours avec lui en Europe.
Ah, bon, en effet.
C'est pas ce qu'il peut dire. Mais je le connais comme homme d'affaires, comme homme dynamique, comme bonhomme qui est dans le marketing. C'est lui qui a... Rappelez-vous la fameuse grande poussée qu'on avait eue à la SAQ, les belles années de la SAQ. C'était Gaétan qui était là.
Mm-hmm.
C'est lui qui était le président de la SAQ qui a dirigé ça.
Mm-hmm.
Et c'est lui qui a été au début des couches tard. C'est lui qui est au début d'un paquet d'organisations. Et c'est un bonhomme dynamique. On le voit maintenant, il est à la télévision.
Oui.
Et il est avec les dragons.
Mm-hmm.
Il est le plus âgé des dragons, mais il est aussi dynamique que les plus jeunes.
Oui, non, mais c'est vrai. En plus, il est très coloré, le bonhomme. Hein. C'est vrai à tous les niveaux, oui.
Puis à part ça, c'est un homme franc. Et s'il n'aime pas, il dit « j'aime pas ». Point final.
Mm-hmm.
Et en lisant son livre, vous allez apprendre des petits trucs. Vous savez, on façonne une vie. Une vie, c'est en 222 pages. Si on demandait à nos auditeurs d'écrire leur vie en 222 pages, ça serait drôle, hein? Si on avait, on aurait de quoi faire des belles émissions.
Oui, c'est sûr. Mais il y en a qui l'écriraient en 30, puis il y en a qui l'écriraient en 2000.
Oui.
Mais oui, c'est la vie, ça.
Mais moi, je recommande à nos lecteurs là, de bien, d'aller chercher ce roman-là qui se lit très, très bien. C'est léger, c'est pas difficile à suivre, etc. Et vous pouvez, ce qui est agréable, c'est que vous en lisez un bout, puis vous regardez l'émission, puis vous voyez le bonhomme.
Mais oui, c'est ça.
C'est pas toujours facile d'avoir l'auteur en même temps.
Mais c'est pas Gaëtan Frigon qui est venu le lire, hein, malheureusement, je pense.
Non.
Bon.
Non,
parce qu'on ne sait jamais, ça aurait pu.
Il aurait pu le faire, je vous garantis, il avait demandé, il l'aurait fait.
Alors, Gaëtan Frigon...
Mais je recommande à nos gens quand même, je taquine en disant que j'aime pas les biographies, il y en a de très bas.
Oui.
Je respecte ce choix-là.
Bien
parce
sûr.
Que, je pense que c'est un volet de la littérature qui est fort intéressant. Bon, on peut pas aimer tout, là.
Gérard, excusez-moi de vous interrompre parce qu'il y avait un élément dont vous m'avez parlé lorsqu'on a préparé cette émission. Vous voudriez insister sur le fait que le site internet que vous allez consulter en tant que non-voyant, hein, on s'entend que vous êtes absolument non-voyant et vous êtes tout à fait capable de vous repérer dans ce site-là et vous me disiez, je veux que les gens sachent à quel point les nouveautés, ils peuvent les trouver là, ils peuvent savoir de quoi parlent les livres. Voudriez-vous, vous, j'allais dire, avec vos yeux d'aveugle, mon Dieu que c'est ridicule comme expression, excusez-la, d'accord, mais non. Vous me comprenez, auriez-vous la gentillesse de leur dire comment vous faites, vous, pour arriver à toutes ces informations-là?
Mais je sais que c'est un travail gigantesque que fait le SQLA, le personnel, pour nous donner à tous les 6 mois cette fameuse
liste.
Moi, j'appelle ça une exposition. C'est une exposition du livre. C'est un salon du livre qu'on a. Un salon du livre qu'on a devant notre téléviseur. Moi, avec mon Zoomtex qui est grossi 9 fois, je réussis à être capable d'aller voir les titres, etc. Je fais une rétrospective des nouveautés. Et il y a une information, un résumé de chacun des livres. C'est un peu comme si on se promenait au salon du livre, qu'on arrêtait, qu'on prenait un livre, qu'on regardait la quatrième couverture.
Oui.
C'est exactement ça.
Et c'est facile pour y aller.
C'est merveilleux. Et là, il faut apprendre aussi, je voulais vous dire, il y a un élément important dans la lecture, et ceux qui lisent beaucoup, qui nous écoutent, vont le savoir. Il y a l'aspect spontané.
Oui.
Ça, là, il n'y a rien. Tout à coup, tu as le goût de lire. Tu sais, je ne sais pas pourquoi. Mm-hmm. Il nous prend un goût, il y a des affaires, il se passe des nouvelles, etc. Mm-hmm. Et tout à coup, tu te dis, mais j'aimerais ça. Tu sais, j'ai relu, là, 4 ans, là, je sais pas pourquoi, mais il me le fallait absolument. J'ai relu Bonheur d'occasion, puis je l'ai savouré, oui. C'était
exactement,
incroyable.
Exactement, exactement. Alors, je voudrais juste, avant qu'on se quitte, Gérard, rappeler aux gens que si vous désirez, vous aussi, comme le fait Gérard Saint-Denis régulièrement, aller voir les nouveautés, il suffit d'aller sur le site de SQLA et vous faites catalogue SQLA. Ensuite, vous allez dans accueil et ensuite vous avez liste des nouveautés. Et là, quand vous descendez,
liste, hein, madame,
c'est ça.
C'est une liste complète.
Voilà, c'est une liste complète. Voilà.
Que vous pouvez avoir en Word, là.
Oui, exactement. Et là, exactement.
Donc, vous le mettez à grosseur, vous
voilà.
Voulez, puis vous ne dérangez pas personne, vous la regardez tranquillement et vous allez faire le tour. Et j'allais noter les choses.
Voilà.
C'est fort, fort intéressant. Moi, je pense que c'est très valable. On remercie beaucoup. Et tout à l'heure, en attendant de passer, j'ai écouté la fameuse information qui dit que c'est le SQLA.
Oui.
Je pense que... Et le service qu'on a aussi, on est
mais
bien
c'est gentil. C'est bien.
Je vais vous dire qu'au Québec, quand je regarde, moi, j'ai fait le tour en Europe, j'ai fait le tour au Canada, à bien des endroits. On est des gâtés par rapport à la qualité du service qu'on a pour la lecture sonore.
Et je vous remercie beaucoup de l'avoir dit, Gérard. J'espère, on va se retrouver à l'automne prochain pour une nouvelle saison de l'émission Un livre découvert. Encore une fois, merci beaucoup pour votre humour, pour votre chaleur et pour votre participation si généreuse. Voilà.
Ça fait plaisir. Portez-vous bien.
Merci, Gérard.
Été.
À vous aussi. Au revoir.
Et des belles tomates. Cette année, bye bye. Important, la vie des bonnes tomates.
Chapitre 2.
Claudia La Rochelle, bonjour. Voyez-vous,
bonjour.
C'est pour des gens, entre autres, comme Gérard Saint-Denis, que 400 bénévoles, ou même un peu plus, viennent lire ici des livres, dont Jacques Tremblay, que je vais recevoir.
Mais je peux vous dire, ça donne envie de venir ici pour lire, justement. Ça, je me dis, je le fais. De toute façon, j'ai à le faire. Alors pourquoi ne pas le faire pour eux, pour ces gens-là?
À voix haute.
Oui.
Alors, c'est la voix de Claudia La Rochelle que vous écoutez. Mm-hmm. Peut-être, si vous êtes amateur, comme je le suis, de littérature, peut-être que vous la suivez, entre autres, sur les ondes d'Art TV, puisque c'est là que vous animez l'émission Lire. Vous avez eu la gentillesse de venir, parce que moi, j'avais envie de vous rencontrer, d'une part, par rapport aussi, ça, on n'en parlera pas beaucoup parce que je veux qu'on parle de bouquins, mais vous êtes très impliquée dans les pyjamas littéraires.
Oh.
Et moi, ici, j'ai toujours l'habitude d'en parler parce que là, encore une fois, on vous raconte des histoires.
Complètement.
Donc, c'est vraiment des soirées qui sont faites pour vous. Oui. C'est au Lion d'Or, c'est une fois par mois à peu près.
Oui, on en a fait 3-4 déjà. Ça. On en a une le 12 juin, on en a une le 26 septembre. Et c'est surtout toujours pour des causes sociales.
Voilà. Et un jour, qui sait d'ailleurs, ce sera certainement Vusez-Voix peut-être qui sera représenté. Oui, ce serait absolument génial.
Oui.
Alors, en dehors de tout cela, vous êtes aussi auteur. Je sais que vous venez de finir un livre, un roman. Mais il y en a eu un autre avant.
Oui.
Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps. Dieu qu'on aime ce titre-là.
Oui.
Et il existe en livre audio. Nous l'avons enregistré.
Hey, j'étais étonnée.
C'est vrai?
Ah, vraiment? Mais ça me fait tellement plaisir de savoir ça.
Parlez-nous de ce livre de femmes.
Oui, puis c'est un livre de femmes qui marque une époque dans ma vie parce que ce que j'écris, c'est très intime. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très collé à ma réalité aussi, à ce que je vis. C'était un premier recueil, donc je suis persuadée que la première création qu'on fait, ou du moins qu'on publie, est forcément, je pense, collée à notre réalité, à ce qu'on est vraiment. Par la suite, de plus en plus, moi, je tends à aller vers la fiction. Mais là, c'était très auto-fiction, je dois le dire. Donc, vraiment collée sur ce que j'ai vécu, ce passage entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est plusieurs nouvelles, plusieurs créations faites au cours de ma vie qui sont vraiment le fruit de réflexions de jeunes femmes. Maintenant que je suis devenue une mesdame, j'écris autre chose. Mais toujours cette voix...
Une maman?
Oui, une maman surtout. ça façonne une madame.
Mmh.
C'est des femmes qui sont champs de bataille. Donc, c'est pas nécessairement léger comme le titre peut le laisser paraître,
mais
pas du tout. C'est plutôt même un pied de nez à ce qui est parfois léger. C'est un peu une moquerie parce qu'il y a beaucoup de moquerie, de cynisme aussi là-dedans.
Et on dit sans pudeur et avec intensité.
Ah oui, mais ça c'est moi. Hein. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ces voix que j'aime. C'est la voix impudique. Je pense que je suis quelqu'un qui ose être impudique. Parce que je suis, ça fait partie de moi. Je suis authentique, je suis comme ça, j'aime ça, et j'aime ça dire vraiment tout haut parfois ce que les gens pensent tout bas. J'aime ça même le dire parfois pour provoquer peut-être des réactions. Je ris, je joue beaucoup avec les malaises. Les malaises, c'est quelque chose qui me plaît dans la vie. Je les regarde aller, susciter des débats, voir un peu les réactions des gens quand on les pousse dans leur retranchement.
Ouais.
C'est ce que j'ai fait dans l'écriture des Bonnes Filles.
Ça, ce sont des femmes quoi, qui sont hantées par des souvenirs parfois, par des hommes, par
beaucoup d'hommes là-dedans.
Ah oui.
Mais c'est pour ça que c'est pas un livre qui s'adresse qu'aux femmes, c'est un livre qui s'adresse aussi aux hommes. Il y a un homme qui m'a lu un jour puis qui m'a dit « Enfin, je sais comment une femme se sent quand elle quitte ma maison ». Donc, parce que c'est des réflexions de femmes par rapport aux relations amoureuses, par rapport aux hommes, par rapport aussi, par rapport à la maternité, il y a les maladies mentales aussi qui sont représentées à travers certains portraits de femmes. C'est des femmes, bon, qui ont tous les âges. On a une adolescente qui est confrontée au suicide. Vous pouvez voir, c'est très joyeux. On a des femmes plus âgées. On a une femme qui a 80 quelques années, une octogénaire. Donc, c'est vraiment des portraits de toutes ces femmes. Oui, ces femmes qui m'habitent, mais ces femmes aussi que j'ai côtoyées au cours de ma vie. Certaines ne sont plus là, certaines sont encore là. C'est pas pour rien que c'est dédié à mes grand-mères aussi, justement.
Oui,
c'est un livre qui il y en a une qui nous a quittés, malheureusement, mais c'était pour elle aussi.
Est-ce que vous l'écririez de la même manière, maintenant que vous êtes devenue femme, comme vous dites?
Non, je ne pense pas. Je pense que même il y a certains texte dans Les Bonnes Filles que j'ai un peu, pas que j'ai honte, mais j'en suis moins fière avec le recul. Je pense que ça fait partie de la vie, puis ça fait partie de la création aussi d'apprendre et de développer son style et d'écrire autrement. Mes réflexions sont très, très différentes depuis, d'abord que je suis sérieuse en couple. on vit d'autres choses, on s'inspire de ce qu'on vit quand on est plus sérieuse. J'ai une petite fille qui a un an, c'est plus la même chose du tout. Donc, comme ma réalité est différente, j'écris sur d'autres sujets aussi. Ouais.
Est-ce qu'on peut entendre un petit extrait Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps. Je rappelle que cette charmante voix que vous entendez est celle de Claudia Larochelle.
Oui, alors je vous lis un extrait d'une nouvelle qui, justement, ça concerne la maternité. Ça s'intitule « Lettre à Béatrice Maximilien ». J'aimerais ne pas commencer cette lettre avec un mensonge. Je t'écrirai donc que tu n'es pas désirée, que tu suscites la peur et l'effroi depuis l'instant où j'ai su que tu étais nichée dans mes entrailles et que ma chair blanche et mince te servirait de bunker pendant 9 mois. J'ai eu envie de courir un marathon, de boire des rivières d'alcool et de tomber dans les marches des escaliers qui mènent à mon appartement pour que tu ne réussisses pas à t'accrocher. Personne ne s'est accroché à moi. Pourquoi as-tu résisté? Paraît que tu ne peux plus changer d'avis, que tes muscles, ton système nerveux et ton appareil respiratoire continuent de se développer, qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Pour toi comme pour moi, tu ne finiras donc pas dans la cuvette des toilettes, dans le fond d'un slip ou dans l'aspirateur d'un médecin. Nous voilà coincés, emprisonnés l'un dans l'autre. Ne te réjouis pas trop rapidement de respirer, petite bébite sans poils. Tu ignores encore tout des souffrances. Peut-être qu'à la naissance, en faisant vivre le martyre à notre mère, on se venge pour toutes les douleurs à subir à travers les saisons. J'ai lu d'ailleurs quelque part que plus la maman hurle et se déchaîne pendant l'accouchement, plus l'existence de l'enfant sera ardue. Je peux tout de suite t'informer que ce qui t'attend ne ressemble en rien à la traversée d'un jardin de roses.
Claudia Larochelle, c'est bon, hein, Jacques Tremblay, hein, ça
donne
envie.
Une bonne lectrice,
hein.
À Vigevoix, ça.
Merci. Oui. Et une bonne lectrice aussi, le 12 juin prochain, c'est un rendez-vous que nous vous donnons, pourquoi pas, venez au Lion d'Or, venez vous faire raconter les histoires. On est tous en pyjama. Est-ce que le public est en pyjama aussi?
Oui, le public peut venir en pyjama, on est plusieurs sur scène, il va y avoir Steffi Choc, Joran, Kim Thuy, toujours plusieurs autres.
Moi, je vais être là.
Oui, Clotilde.
Le 12 juin, oui, ça va me faire plaisir
tout
aussi.
Tout à fait, on va lire des textes en tout genre et puis aller voir sur le site internet, je pense que c'est sur la vitrine culturelle, sur lavitrine.ca pour prendre des billets, oui.
Merci beaucoup Claudia Larochelle.
C'était un grand plaisir, merci beaucoup.
On vous recevra à nouveau. Et bon vent et un gros bisou à votre petite fille.
Oui, merci.
Chapitre 3.
Le chapitre 3 est consacré à un livre que vient nous présenter Jacques Tremblay, bénévole ici chez Vues et Voix. Je vous laisse nous le présenter, Jacques, le titre et le nom de l'auteur, peut-être?
Le titre, c'est « La lettre à Helga ».
Et le nom de l'auteur, c'est pas un cadeau.
C'est un peu plus compliqué. Bergsvein Birkisson.
Oh, mais vous l'avez bien.
Ah, c'est pas mal. Je l'ai
Alors,
pratiqué pas
sonne,
mal aussi.
Ça sonne quoi? Islande?
Écoutez,
Finlande?
La lettre à Helga, c'est effectivement une lettre écrite par un Islandais. Okay. Qui a écrit le livre en même temps. Paru en 2010. C'est un livre qui a fait un tabac en Europe, qui a été traduit en plusieurs langues et en français seulement en 2013 et enregistré. Mm-hmm. Il y a quelques mois chez nous, est disponible maintenant pour les usagers.
Voilà.
Alors, c'est un roman épistolaire, c'est une lettre, n'est-ce pas, qui a un seul interlocuteur. Elle a été écrite en 1997, nous dit l'introduction. Son auteur, le personnage principal de notre roman, a 90 ans à ce moment-là. Donc, c'est au crépuscule de sa vie, dirions-nous, qu'il effectue une espèce de retour sur sa vie. Mais sa vie la plus importante, il l'a vécue dans la trentaine, dans les années 39-45, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au moment à cette époque-là, il est éleveur de moutons. Enfin, toute sa vie, il aurait été éleveur de moutons. Il est aussi pêcheur à 16 heures. C'est un homme très engagé dans sa communauté. Il est contrôleur des réserves de fourrage. Donc, il est comme une assurance récolte pour tous ses compatriotes. Mais c'est également un homme engagé socialement. Il a été fondateur de la coopérative agricole de son canton. Et c'est lui qui approvisionne en livres la société de lecture de son village. Donc, c'est un homme érudit, cultivé, ouvert sur le monde. Autour de lui gravitent des personnages divers, dont les principaux sont bien sûr Helga. Helga, c'est la voisine. Elle est mariée. petit hic, un personnage qui s'appelle Hal Grimur.
Elle
a eu deux enfants avec ce Hal Grimur.
Oui.
Mais cet homme est un personnage plutôt minable, oui. qui ne s'intéresse pas à l'élevage des agneaux, qui est le métier de cette ferme, mais qui s'intéresse plutôt à l'élevage des chevaux, et ça se passe à l'autre bout du pays. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un qui est régulièrement absent. Bjarni, c'est le nom de notre nonagénaire, deviendra mm-hmm. follement amoureux d'Helga. Et c'est avec elle qu'il découvrira finalement toute la puissance du désir, mm-hmm. de l'érotisme, qu'il vivra de façon très intense dans les années 39-40.
Il faut se remettre dans le... c'est ça.
Oui, mais ça m'a permis incidemment de faire un petit détour historique et de comprendre que les Américains ont envahi l'Islande pendant la Deuxième Guerre mondiale pour des motifs stratégiques. Ah, l'Islande, oui. qui est officiellement indépendante. Mais pour les Islandais, c'est l'invasion. Et ça apparaît à plusieurs reprises dans le roman, cette invasion des Américains. L'autre personnage principal, c'est la femme de Bjarni, qui s'appelle Unur, mais qui est devenue infertile. Suite à des interventions chirurgicales ratées, mm-hmm. en fait, mm-hmm. plus de la boucherie que de la chirurgie dont elle est victime. Elle a été victime et elle est demeurée pour cela très dépressive, acariâtre. Et elle reprochera toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, à son Bjarni de l'avoir épousé. Elle est très consciente que c'est l'autre qui l'a toujours aimé, mm-hmm. et qu'il aurait dû marier. Alors, c'est dans ce contexte que Bjarni, à la fin de sa vie, Unur, sa femme, est morte. Aldemur, le mari de Helga, est également morte et il fait un retour en arrière. Alors, je pourrais vous lire des extraits, oui. comme par exemple « Bientôt, ma belle, j'embarquerai pour le long voyage qui nous attend tous. Et c'est bien connu que l'on essaie d'alléger son fardeau avant de se mettre en route pour une telle expédition. Assurément, j'arrive après la soupe en t'écrivant cette lettre maintenant que nous sommes tous plus ou moins morts ou séniles. Mais je m'en vais la griffonner quand même. Si tu vois cela d'un mauvais œil, tu n'auras qu'à jeter ce gribouillis. Mais ce gribouillis durera 127 pages.
Qui se lisent, par exemple, dans la presse, j'avais lu cette critique, cette lettre d'amour magnifiquement écrite se lit d'une traite. Pendant que défilent les paysages de l'Islande, c'est un hymne à la terre et aux valeurs d'autrefois, mais aussi une réflexion sur les sentiments et le sens de la vie. C'est marrant parce que au début, lorsque je lisais moi aussi tout ce qu'on disait, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est le démantèlement. Tu sais, il me semblait voir le personnage. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Pilote.
Oui.
Mais finalement, ça n'a rien à voir parce que autant dans le personnage de Pilote, dans le démantèlement, il vit absolument enfermé. Je veux dire, lui, il n'est absolument pas ouvert sur sa communauté. Par contre, là, on ne parle pas de ça.
La grande différence entre le démantèlement et ce personnage, c'est que ce personnage n'acceptera jamais de renoncer à son environnement foncièrement agricole, très intensément intégré dans la tradition, d'une fidélité absolue à son passé et à sa mission. Et l'amour qu'il va développer avec cette Helga fera en sorte qu'ils auront une saison d'amour, en fait quelques saisons d'amour, qui déboucheront sur une maternité, finalement. Helga deviendra enceinte, et alors là, elle le mettra devant une alternative il sera capable de trancher, mais pas dans le sens du démantèlement, dans le sens où il va renoncer à Helga, qui lui dit « On part ensemble vers Reykjavik, où on ne se voit plus, et cet enfant que je porte pour toi ne sera jamais ton enfant. » Parce qu'elle aurait eu quelques contacts son époux. Et finalement, il y a peut-être un extrait que je pourrais vous lire concernant décision qu'il prend, là, tes arguments enflammés en faveur d'une fuite à deux et à cinq, parce que les enfants seraient allés avec eux vers Reykjavik. Des arguments enflammés étaient empreints d'un tel enthousiasme que, me laissant séduire par tes paroles, je souris. Et me représenter la vie à Reykjavik sous l'éclairage que tu lui prêtais. Et puis, je me rappelais qui j'étais, où j'étais. Je me détournais pour regarder le bout de planche dépassant de la bergerie. Tu t'effondras alors et te mis à pleurer. Parce qu'elle a compris. Et un peu plus tard, il lui dit, aurais-je jamais l'occasion d'observer les nuages à Reykjavik? Ma perception des choses n'y serait-elle pas comme... encrouté de bernique face à la beauté de la vie. Fallait-il que je déménage à Reykjavik pour creuser des fossés ou construire des baraques pour les Américains? Que je mette fin à l'élevage de la race ovine léguée par mon bonhomme de père? Et que je m'étais employé jour et nuit à soigner et à croiser de telle sorte que les agneaux doubles et triples étaient devenus monnaie courante? Alors finalement, il va rester sur place, elle va rester également sur place. Et pendant les 40 années qui suivront, elle demeurera sa voisine avec 3 enfants, dont une petite qui sera la sienne et qui l'observera à distance avec des jumelles toutes neuves qui s'est achetée, avec un livre sur les oiseaux pour faire croire à son entourage que c'est pour observer les oiseaux qu'il a acheté les jumelles.
Et, c'est tout un voyage en Islande, un voyage aussi, c'est ça, dans les méandres de ces vies parallèles comme ça, parce que finalement, ça restera malgré tout comme une histoire d'amour parallèle. Je veux dire.
Et ce que je dirais, c'est que oui, c'est le nœud, mais il y a un tas de personnages, il y a un tas d'événements qui viennent se greffer à cette histoire de fond, qui nous font découvrir des hommes et des femmes absolument magnifiques avec des expériences de vie. Des anecdotes qui sont tellement enrichissantes que c'en est un plaisir à chaque ligne et à chaque page.
Alors ne manquez pas ça, la lettre à Helga, Helga avec un H, de Bergvein Birgisson, et c'était Jacques Tremblay, bénévole, qui a lu ce livre, qui est venu nous le présenter. Merci beaucoup Jacques Tremblay.
Ce fut un plaisir.
Plaisir.
Épilogue.
Alors, en guise d'épilogue, vous le savez si vous êtes des habitués de l'émission, quelques titres en rafale dans des genres tout à fait différents, comme j'essaie de le faire toujours. Bon, par exemple, alors Guillaume Musso, qui n'a pas lu du Musso dans sa vie? Eh bien, le livre Demain n'avait pas encore été enregistré, mais là, il l'est et il est disponible au SQLA. Elle est son passé, il est son avenir, nous dit-on. Vous connaissez peut-être un petit peu l'histoire. Emma, qui vient de New York, à 32 ans, elle continue à chercher l'homme de sa vie. Et puis Mathieu, lui, habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident. Il élève seul sa petite fille. Ces deux-là devraient se rencontrer. Bon, allez vous chercher le bouquin. C'est un thriller psychologique impossible à lâcher, nous a dit Philippe Vallet dans France Info. Et Michel Field, dans l'émission française Au Field de la Nuit, avait dit très astucieusement écrit, chapeau, grand plaisir de lecture. Alors, Demain, de Guillaume Musso. Est-ce que je dois vous appeler Musso? M-U-S-S-O. Je suis une bâche à poche. Ça, c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous connaissez Claudia La Rochelle. C'est d'une femme qui s'appelle Oukmina Manouri. Nous sommes en Afghanistan. Et vous savez que depuis toujours, certaines petites filles jouent le rôle d'un fils. On les appelle les bâches à poche. Ces petites filles habillées en garçon qui font ce choix familial qui permet aux parents d'avoir une personne autonome, simplement pour aller faire les courses, d'aller travailler, ou même dans certains cas de sauver le déshonneur de n'avoir pas eu un mâle comme héritier. Alors on suit le parcours d'une jeune femme qu'on appelle donc une bâche à poche. C'est de Oukmina Manouri, ça s'écrit M-A-N-O-O-R-I. J'avais encore un livre, ah oui, formidable, Le maréchal absolu de Pierre Jourde, un roman conséquent que vous avez l'air de connaître, Claudia.
Oui, on en a parlé à l'émission, justement.
Vous en avez parlé, un 700 pages, on raconte par le biais de différents points de vue le règne et la déchéance d'un dictateur dans un pays fictif. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je manque de temps, mais c'est vraiment un livre fleuve assez extraordinaire. Malheureusement, on n'a plus que 30 secondes, Claudia. Alors, j'aurais tellement avoir pu en discuter avec vous. Merci d'avoir été là. À Claudia La Rochelle et Jacques Tremblay, c'était Clotilde Seille. À la semaine prochaine.